Le vendredi 5 avril 2019, nous les élèves de 3e 4 avons reçu deux volontaires en service civique.
Elles sont venues nous parler de l'association Unicité et du programme JAD.
Elles nous parlent de la discrimination.
Donc en fait, le service civique, c'est un engagement de entre 6 mois et 1 an pour les jeunes entre 16 et 25 ans. C'est un engagement qui du coup peut se faire dans les 9 domaines qui sont affichés. Il y a plein de missions différentes et la mission en fait elle a pour but de faire évoluer la société et de se rendre utile pour la société. Il y a vraiment dans plein de domaines différents, enfin nous du coup on est sur le domaine des discriminations, mais ça peut être sur l'écologie, le sport, la santé, il y a plein de choses différentes. Il y a plein d'organismes aussi d'accueil qui existent. Et donc là on a mis des chiffres de 2014, on n'a pas trouvé pour après, mais c'était 35 000 volontaires en 2014 et on sait que c'est en évolution jusqu'à encore maintenant. Donc on est indemnisé par l'État et ça se base vraiment sur l'engagement, c'est vraiment une idée volontaire, c'est vraiment nous qui voulons faire ça, il n'y a personne qui nous force à faire ça, du coup on est motivé à aller là-dedans et le recrutement il se fait que sur la motivation et pas sur les diplômes.
Du coup nous, notre service civique on le fait auprès d'une association qui s'appelle Unicité, en fait c'est une association que de service civique, donc ils existent depuis 1995. Et le but de l'asso, c'est de proposer des programmes de service civique. Donc leur devise, c'est être utile aux autres autant qu'à soi. Je pense que ça vous parle, en fait, c'est que Unicité, ça permet du coup de faire une pause pour les jeunes dans leurs études ou s'ils veulent se réorienter professionnellement. Donc il y a vraiment cette notion de être utile aux autres parce que c'est un service civique et parce que c'est une mission d'intérêt un peu générale. Et en même temps à soi, parce que ça nous permet de faire une pause, de prendre du recul, de rencontrer plein de gens aussi. En Rhône-Alpes, on est 500 volontaires. Rien qu'à Grenoble, on est déjà 150 à peu près.
Ouais, quelque chose.
Donc voilà, l'association, ça permet vraiment de mettre en contact plein de jeunes et on est tous au même moment de notre vie un peu. Donc voilà, ça permet vraiment de faire une année de pause et en même temps d'avoir vraiment une mission utile.
Et ce qui est intéressant, c'est que comme le recrutement, il se fait que sur la motivation, on rencontre des gens de milieux totalement différents, d'âges différents, de parcours de vie différents. Et des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées en dehors, en fait. Du coup, ça, c'est vraiment intéressant et on travaille en équipe. Nous, là, on est deux, mais normalement, on est quatre. Et du coup, arriver à travailler en équipe, c'est quand même des compétences qu'il faut acquérir. Ça ne se fait pas forcément naturellement, ce n'est pas toujours facile. Et du coup, nous, pendant notre année, on apprend aussi à faire ça et même d'autres choses, des postures professionnelles ou des choses comme ça qui pourront nous servir pour après, même si là, on n'est pas encore des professionnels.
En fait, c'est nous qui choisissons le programme sur lequel on veut se positionner. Par exemple, à Unicité, ils ont... Donc nous, on s'appelle les JAD, on va vous expliquer exactement notre programme après. Mais ça peut aller de faire de la sensibilisation au gaspillage alimentaire à intervenir en maison de retraite pour faire des animations auprès des personnes âgées ou...
Dans des bibliothèques pour parler aussi. Des fake news. Voilà. Ça peut être très varié. Là, c'est que Unicité, mais après, il y a d'autres organismes d'accueil qui proposent d'autres missions. Après, il y a tout sur le site internet du service civique. Toutes les demandes, tout le recrutement se fait là-dessus. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur le site et vous trouverez forcément un truc à votre goût parce qu'il y a tellement de demandes que vous trouverez quelque chose.
Et on n'a pas précisé que le service civique, ça peut se faire en France ou à l'étranger. Voilà, en Europe ou hors Europe. Donc, voilà, c'est vraiment cool. Et du coup, comme on vient de le dire, nous, le programme qu'on a choisi, c'est le programme JAD. Donc, c'est Jeunes Ambassadeurs des Droits pour l'Égalité. Le but de notre programme, c'est de faire de la sensibilisation à la discrimination et faire de la promotion de l'égalité. Donc on intervient auprès de jeunes comme vous, mais aussi dans des associations, avec des plus grands, donc en lycée. Dans pas très longtemps, on va intervenir avec des jeunes en prison. Donc en fait, on va vraiment là où on peut trouver des jeunes à sensibiliser, des groupes préétablis. On va aussi à l'université, on fait des stands, on fait vraiment énormément de choses. Et le but, c'est de faire passer notre message, en fait.
Et pour en revenir du coup à l'intérêt du service civique aussi, c'est que nous, personnellement, dans notre mission, on rencontre plein de publics différents, on fait plein de choses variées et ça nous permet vraiment d'acquérir des compétences dans plein de domaines et de l'expérience pour après continuer nos études.
On va parler du processus mental qui se cache derrière une discrimination. Ça s'appelle la catégorisation.
C'est vraiment le processus de catégorisation qui est inconscient et naturel, qu'on le fait tous et qui nous permet de nous simplifier la vie parce qu'en fait, c'est vraiment... mettre dans des catégories des objets qui ont des caractéristiques communes. Donc par exemple, on voit 4 pieds, on se dit que c'est une chaise. Donc ça se fait tellement naturellement qu'on ne s'en rend pas compte. Et ça nous permet de percevoir notre environnement plus rapidement.
Ça nous permet de traiter les informations en fait.
Au lieu de voir les choses par partie, on voit un ensemble. Et du coup, on se dit c'est une chaise. On ne voit pas un pied, un deuxième pied, du bois. Vous voyez ce que je veux dire ? on voit l'ensemble et du coup on se dit c'est une chaise, ça nous permet de traiter l'information beaucoup plus rapidement.
En fait, si notre cerveau faisait pas ce processus-là, on pourrait juste pas survivre parce qu'on aurait beaucoup trop d'informations à traiter, on pourrait pas catégoriser, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et on pourrait pas non plus, s'il y a un danger ou s'il y a vraiment quelque chose qui représente un danger, on saurait pas l'analyser non plus parce qu'on on met pas de catégorie, donc on pourrait juste pas survivre. C'est comme si on mettait les choses dans une boîte et le stéréotype, on vient rajouter une étiquette sur cette boîte. Et juste après stéréotype vient le préjugé en fait. Donc c'est juger avant de connaître. On va simplement apporter un jugement par-dessus ce stéréotype. La nuance, elle est assez subtile entre stéréotype et préjugé.
Et pensez bien que tout ça, c'est un processus mental, donc on s'en rend pas forcément compte, et ça se fait très naturellement. Et on est aussi là pour vous faire comprendre qu'il faut avoir conscience de ces stéréotypes. Ils s'enlèveront pas parce que c'est un truc qui est véhiculé par les médias, l'éducation, notre entourage. Enfin, tout ce qu'il y a autour de nous fait que ces stéréotypes sont véhiculés. Mais il faut en avoir conscience et se dire que on peut avoir une première idée de se dire « Ouais, cette personne, elle doit être comme ça. » Et après, on peut se dire « Peut-être pas, en fait, si t'as juste un stéréotype. » Donc, dans la catégorisation, la plus classique, ce serait « fille-garçon ». Le stéréotype, ce serait du coup que la fille est douce et que le garçon est fort. On pense généralement ça. Et du coup, peut-être que la fille serait trop douce pour de la mécanique et le garçon pas assez sensible pour la puriculture. Et du coup, la discrimination, ça pourrait être que la fille, elle est refusée d'être embauchée dans un garage et que le garçon, il est refusé d'être embauché dans une crèche. Vous voyez comment ça peut se construire mentalement ? Après, là, c'est très schématique et tout ça, mais ça se passe comme ça en réalité.
En fait, nous, le message qu'on essaie de faire passer, c'est de dire que des stéréotypes, on en a tous. Et comme Lisa le disait, c'est impossible de se réveiller demain matin et de plus en avoir. Mais faut faire attention à ce que ça influe pas, en fait, nos comportements. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que ce sont des stéréotypes, que ce sont des idées qui sont pas forcément vraies, même la plupart du temps qui sont fausses. Et voilà, prendre du recul et pas assimiler tout et pas prendre ça pour une vérité générale.
Donc, il faut bien que vous fassiez la différence entre ce qu'on a vu et ce qu'on va voir. Donc là, c'était vraiment le processus mental qui se faisait dans notre tête. Et là, on va voir la définition de la discrimination en droit.
Du coup, pour avoir vraiment une discrimination en droit, il faut 3 éléments.
Donc c'est le refus, le critère et le domaine.
On nous refuse l'accès à quelque chose, en fait.
Donc c'est marqué un traitement moins favorable d'une personne dans une situation comparable. Est-ce que vous auriez d'autres idées sur quoi on pourrait se faire discriminer ? Donc on a dit le physique, la couleur de peau, l'origine, la religion.
Donc c'est les critères sur lesquels on peut être discriminé. Du coup, il y en a une vingtaine de critères qui sont reconnus par la loi. Donc on peut être discriminé sur son nom de famille parce qu'il est vecteur de notre origine, en fait. L'état de grossesse aussi. Une femme peut être discriminée parce qu'elle est enceinte, elle va être licenciée ou elle va pas avoir d'augmentation. Les mœurs, c'est les habitudes de vie. Par exemple, si on est fumeur, si on boit de l'alcool, etc., on peut être discriminé là-dessus aussi.
Il y a l'orientation sexuelle aussi.
Ouais.
Il y a le lieu d'habitation.
Si on habite en banlieue.
Les tatouages.
Ouais, c'est dans l'apparence physique.
Dans l'apparence physique, il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans, la couleur de cheveux, le style vestimentaire, les tatouages. Il y a le sexe aussi qu'on n'a pas dit qui est super connu. Et l'âge. Et à votre avis, où on pourrait se faire discriminer ? Et donc ça, c'est les 4 domaines de discrimination. Donc vous les avez presque tous dit tout à l'heure. Le sport et les loisirs, le logement, l'éducation et les formations, et l'emploi et le stage. Donc essayez de bien retenir ces 3 éléments. Ils sont ultra importants et il faut vraiment qu'il y ait ces 3 éléments pour qu'il y ait une discrimination. Si on n'a que 2, ça ne marchera pas. Et du coup, c'est important de les retenir pour reconnaître les situations et se dire ça, c'est une discrimination ou ça, c'en est pas une.
En fait, ça ne sert à rien que vous connaissiez la définition par cœur comme ça. Enfin, c'est pas le but. Mais simplement, si vous connaissez ça, et ben, ça vous permet de mieux faire valoir vos droits, en fait. Parce que vous allez faire la différence entre si vous avez vraiment été victime de ça ou pas, ou si vous êtes témoin aussi, parce que vous pouvez être aussi témoin.
Donc comme on vous a dit, la discrimination, c'est pas bien, c'est illégal et c'est puni par la loi. Donc on peut être puni de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende pour une personne physique et pour une personne morale de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. C'est super important d'en parler et de pas se dire c'est pas grave, je passe à autre chose. Et du coup, on peut aussi contacter le défenseur des droits, dont on va vous parler de cette institution. Donc c'est à la fois une institution qui s'appelle le défenseur des droits et c'est aussi une personne physique qui s'appelle Jacques Toubon, peut-être que vous en avez entendu parler dans les médias. Et en fait, elle agit sur 5 champs d'action, enfin là, plutôt 4, on va dire. Donc elle aide à faire valoir les droits des citoyens quand ils ont des problèmes avec les services publics, comme la CAF, Pôle emploi, d'autres administrations comme ça. Elle défend et fait connaître les droits de l'enfant. Elle lutte contre les discriminations, donc notamment par nous, mais ils ont d'autres professionnels là-dedans. Et elle veille au respect des règles de déontologie des forces de l'ordre. C'est en gros pour pas que les forces de l'ordre elles abusent de leur pouvoir et qu'elles respectent les règles de leur métier, quoi. Dans les fouilles, dans les manifestations, dans ce genre de choses, qu'elles abusent pas de leur pouvoir.
Du coup, en fait, comme on l'a dit, le Défenseur des droits, c'est une institution qui est basée à Paris. Mais il y a des délégués dans toute la France, il y en a à peu près 500. Donc faut pas penser que c'est un truc à la capitale et que ça nous aidera pas. Voilà, il y en a vraiment dans toute la France, en Isère il y en a 9. C'est super facile de les contacter là, on vous a mis les adresses mail, mais si vous allez sur le site du Défenseur des droits, vous avez toutes les informations. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez le contacter si vous êtes mineur ou majeur, si vous êtes victime ou témoin, si vous pensez vraiment que vous avez été victime d'une discrimination ou si vous avez juste une question par rapport à ça. C'est gratuit, ils sont là pour ça en fait. Il suffit juste de prendre un rendez-vous, donc ils ont des permanences. Et ils seront vraiment là pour vous orienter, vous dire si oui ou non vous avez été victime de telle ou telle chose. Et ensuite, ils vont pouvoir enquêter avec vous, essayer de réunir des preuves. Et après, c'est selon ce que vous voulez faire. Soit ils vont vous conseiller d'aller en justice, soit ils vont faire ce qu'on appelle un règlement à l'amiable. En fait, c'est arranger les deux parties pour trouver un commun accord. Du coup, ça peut passer simplement par aller voir l'entreprise ou l'établissement qui a discriminé et faire un rappel à la loi. Simplement dire ce que vous avez fait, c'est illégal. La victime n'attend pas de réparation, mais voilà, un rappel à la loi, ce que vous avez fait, voilà, c'est complètement illégal et voilà ce que vous encourez. Et si la victime le souhaite, aller devant la justice.
Et pensez bien que c'est pas aussi long que d'aller porter plainte à la police. C'est vraiment facile de les contacter et même s'ils peuvent pas nous aider, ils peuvent nous réorienter vers d'autres services compétents et ils sont vraiment là pour nous, quoi. Donc faut vraiment pas hésiter à les contacter.
Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que souvent les victimes de discrimination, elles en parlent pas. Un peu les mêmes réflexes que vous, se dire c'est pas très grave, ou je vais forcer, je vais essayer de rentrer, ou je vais aller voir un autre établissement et voilà. Sauf qu'en fait, moins on en parle, moins on permet de faire connaître ça, et plus il y aura de discrimination.
Et plus ça devient banal, en fait, et il ne faut pas. Donc, il faut vraiment en parler. Au moins, en parler déjà à quelqu'un, c'est déjà beaucoup. Et si en plus, vous pouvez en parler au Défenseur des droits, ou à la police, ou à quelqu'un plus au-dessus, c'est bien aussi.
Le Défenseur des droits, il estime... Alors, quand quelqu'un vient parler d'une discrimination, on appelle ça une saisine. Bon, c'est un langage un peu juridique. Mais le Défenseur des droits estime qu'il n'y a qu'une dizaine de pourcents de saisines par rapport aux discriminations, quoi. Il n'y a que 10% des victimes de discrimination qui vont en parler. Donc c'est vraiment important d'aller en parler et voilà. Et ça ne vous engage pas forcément devant la justice. Ça peut être juste aussi relater ce qui s'est passé et ensuite dire moi je vous ai dit ce qui s'est passé, mais je veux pas en entendre parler, je vous dis juste ce qui se passe dans cette entreprise et voilà.
Après, on a conscience que c'est pas aussi toujours facile d'aller en parler. Comme on disait tout à l'heure, peut-être qu'on se sent un peu humilié et tout ça. Mais eux, ils sont vraiment là pour ça. Et ils vous jugeront pas. Et du coup, voilà. Vous pouvez aller leur en parler. Que ce soit sur les discriminations, sur les droits de l'enfant ou sur autre chose. Du coup, on voulait juste rapidement vous faire une petite différence entre discrimination et les termes racisme, xénophobie, homophobie, sexisme et tous ces termes. Parce que c'est pas la même chose. On ne dit pas qu'il y en a un qui est plus grave que l'autre, mais c'est juste que c'est des choses différentes. On peut être raciste et discriminé, mais on n'est pas forcément... si on est raciste, on n'est pas forcément en train de discriminer. C'est pas forcément lié. Et c'est pas puni de la même façon par la loi. Juste peut-être que... Est-ce que vous savez ce que c'est que la xénophobie ? Exactement.
Ouais, du coup, on parle de peur ou rejet, en fait. C'est vraiment rejeter... Là, tout ce qui est étranger, ou sexisme, c'est rejeter l'autre sexe. Homophobie, les personnes homosexuelles. Handiphobie, les personnes handicapées. Vous comprenez la différence entre ces termes-là et discrimination, ou c'est pas très clair ?
Oui.
Par exemple, si quelqu'un fait une insulte raciste dans la rue, c'est de la discrimination ou pas ?
Non.
Pourquoi c'est pas de la discrimination ?
Parce que ils ont pas fait un traitement moins favorable sur
nous. Exactement, c'est exactement ça.
Il n'empêche pas l'accès à un domaine.
Voilà.
Mais c'est aussi puni par la loi d'insulter quelqu'un dans la rue. Faut bien nuancer.
Voilà. C'est juste que c'est pas puni pareil et c'est bien pour vous de faire la différence, comme on le disait tout à l'heure, pour faire valoir vos droits le mieux possible.
En quelle année l'association a-t-elle été créée ?
En 1995. En fait, à la base... Oui, c'est une cité dont tu parlais. Sinon, le Défenseur des droits, c'est une institution qui est assez récente. Elle date de 2011. C'est pour ça aussi que personne ne connaît vraiment encore. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que c'est une institution du gouvernement. Normalement, tout le monde les connaît, mais celle-là, comme elle est récente, on connaît moins. Et Unicité, 95, et c'est eux, en fait, qui ont permis que le service civique soit reconnu et porté par le gouvernement. Avant, ils proposaient ça, ils proposaient des missions comme ça pour les jeunes, mais ça s'appelait pas service civique et c'était pas encadré et c'était pas... ça faisait pas partie du gouvernement comme ça fait partie maintenant.
Qui a créé l'association Unicité ?
C'est trois étudiants qui sont partis en Erasmus aux États-Unis et qui ont vu comment ça se passait là-bas, parce que du coup, les États-Unis, bien avant nous, ils avaient ce système de service civique qui s'appelle pas service civique, mais qui est dans ce genre-là, et elles sont revenues en France en se disant mais il faut absolument faire ça, parce qu'il y a énormément de jeunes qui savent pas quoi faire, et elles avaient vraiment envie de transmettre cette valeur de les jeunes aussi, ils peuvent s'engager, et ils peuvent, c'est des belles valeurs à transmettre, et ça leur permet en plus de faire une pause, d'avoir de l'expérience, il y avait que du positif, et du coup elles sont rentrées des États-Unis en voulant absolument créer ça en France, et à L3 elles ont créé une cité. Au début c'était une toute petite association, et maintenant ça a une ampleur nationale, et il y a énormément de volontaires, énormément de salariés.
Et c'est le premier organisme qui accueille le plus de services civiques en France.
Pourquoi vous avez décidé de rentrer dans le service civique ?
On a toutes les deux fait une licence avant, pas la même, mais on a toutes les deux fait une licence, donc on a fait 3 ans d'études après le bac, et on avait toutes les deux envie de faire une pause pour réfléchir à ce qu'on voulait faire après. Donc moi personnellement, je savais pas du tout ce que je voulais faire après ma licence, et je me suis prise cette année aussi pour avoir un peu d'expérience de terrain et être un peu plus connectée, on va dire, à la réalité que seulement les apports théoriques qu'on peut avoir en cours, et de réfléchir du coup à ce que je voulais faire après et me sentir utile.
Et du coup, moi, c'est exactement pareil. Et nos deux autres collègues, ils sont plus jeunes. On a une qui a 18 ans, qui a arrêté le lycée, donc qui n'a pas passé son bac. Du coup, ça lui permet d'avoir une expérience, et après, ils veulent s'orienter vers le métier d'éducateur spécialisé. Et souvent, ils demandent une expérience en service civique avant. Donc, ça leur permet de faire un tremplin avant.
C'est quoi qui vous a fait envie d'aller dans cette association ?
Déjà, comme on disait tout à l'heure, il y a un encadrement qui est super bien construit. Qui est super bien construit avec l'accompagnement au projet d'avenir. On a des formations aussi à côté sur la santé, l'environnement, la citoyenneté. Et ils proposaient du coup le programme JADE. Et c'est plutôt pour le programme JADE en premier qu'on a postulé que pour l'association, quoi.
Puis c'est aussi l'idée de faire un service civique en équipe, parce qu'il n'y a quasiment que Unicité qui propose de faire des services civiques comme ça en équipe, et on est vraiment une promotion. On est la promotion 2018-2019, donc ça permet de rencontrer vraiment énormément de monde. On a des journées où on est entre volontaires, où on met de côté nos missions, et c'est vraiment pour ça s'appelle des périodes d'intégration. Donc c'est vraiment à la fois pour le programme et à la fois pour cette ambiance de faire partie d'un groupe, quoi.
C'est dans quel établissement que vous préférez intervenir ?
Je pense que ça dépend de nous quatre, mais...
Ouais, je pense que c'est propre à chacun. Après, c'est très très différent d'intervenir dans des établissements scolaires et d'intervenir dans des associations, des missions locales où les jeunes ils sont déscolarisés. Les propos déjà sont pas pareils, et du coup, ça fait que l'intervention est totalement différente, en fait.
Ça dépend vraiment. Des fois, on est super surpris parce que en collège, comme avec vous, le débat est super constructif, super animé, et ça participe énormément. Des fois, ça participe moins. Des fois, c'est avec les plus grands que ça participe plus, et des fois, on est étonné parce qu'ils sont à la fac et au final, ça les intéresse pas vraiment, ils sont pas très actifs, donc ça dépend vraiment, vraiment de qui on a en face de nous.
Avez-vous des partenariats ?
Ouais, du coup, on est avec Unicité, qui, eux, sont partenariat avec le Défenseur des droits, qui sont aussi en partenariat avec la Métropole de Grenoble et avec l'Université de Grenoble. On a beaucoup de partenariats, et l'université et la métropole sont là pour nous donner un peu les contacts locaux, pour savoir où on peut intervenir, où il y a des groupes de jeunes. Le Défenseur des droits est là pour nous former et nous donner tout le contenu de nos interventions. Et Unicité, ils sont là pour le côté service civique, et voilà.
Parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'à Unicité, il y a le côté, effectivement, notre service civique, le programme qu'on a choisi, la mission qu'on a, mais il y a aussi un côté accompagnement, où ils nous accompagnent vraiment sur notre projet d'avenir, sur... ce qu'on veut faire à la suite de notre service civique, sur faire des intégrations avec tous les jeunes, etc. Donc on a vraiment deux dimensions dans notre mission.
La plupart du temps, les discriminations, elles sont cachées. Et je m'explique, là, vous avez montré l'exemple avec une boîte de nuit. Donc il y a quelqu'un qui est face au videur qui fait la discrimination. Mais la plupart du temps, pour une embauche, on envoie une lettre. Pour un logement, on monte un dossier. Et on est discriminé, en fait, tout le temps sans le savoir. Comment on fait pour lutter contre ça ?
C'est très dur à prouver, surtout sur les CV et tout ça. Après, c'est aussi important, peut-être, quand on est refusé dans une entreprise ou quelque chose comme ça, de demander pourquoi on a été refusé. Et là, souvent, on sent, enfin, souvent, je sais pas, mais on peut sentir s'ils trouvent une excuse ou si c'est vraiment la vraie raison, quoi. Après, ils sont pas toujours d'accord pour dire aussi pourquoi ils ont refusé, mais...
C'est pour ça que le défenseur des droits a mis en place quelque chose qu'on appelle le testing, où en fait, ils vont envoyer des centaines soit de CV dans des entreprises, soit de dossiers pour des logements, en changeant juste un critère. Par exemple, ils vont changer le sexe ou ils vont changer le nom de famille en mettant des noms de famille porteurs d'origine particulière. Et ensuite, ils font des études, ils voient le pourcentage de CV qui ont été directement écartés à cause de ce critère-là. Et ensuite, c'est comme ça qu'ils peuvent déterminer si l'entreprise elle est discriminante ou pas. Et c'est une preuve qui, depuis peu, est maintenant reconnue devant la justice comme une preuve tangible pendant un procès.
Il fait quoi d'autre, le défenseur des droits ?
Tout ce qu'on vous a dit, par rapport aux discriminations, par rapport aux droits de l'enfant, par rapport à la déontologie des forces de l'ordre et par rapport aux services publics. Et en fait, ils sont là aussi, du coup, pour... Donc certaines affaires montent jusqu'en justice. Donc il y a beaucoup de juristes, en fait, aux défenseurs des droits, qui sont là pour savoir si... Enfin, quel recours on peut apporter à la personne, en fait, qui vient saisir le défenseur des droits.
Et ils peuvent aussi faire des propositions de loi. Alors, c'est pas du tout eux qui vont adopter la loi, etc., mais ils peuvent faire des propositions au nom de Jacques Toubon, qui est nommé par le président de la République. On l'a pas précisé, mais il est nommé par le président. Et ils peuvent faire des propositions de loi. Il y a pas longtemps, c'est eux qui ont proposé la loi pour interdire les châtiments corporels sur les enfants. Je sais pas si vous avez entendu parler, mais avant, à l'école, c'était interdit de donner une claque ou une fessée à un enfant. Et dans le domaine privé, c'était autorisé. Maintenant, c'est complètement interdit. Et c'est le défenseur des droits qui a proposé cette loi et qui a montré sa volonté de faire passer cette loi. Donc il peut faire ça aussi.
Est-ce qu'il y a d'autres associations au niveau de l'Europe qui font le même boulot que vous ?
Alors on sait qu'ils sont présents dans toute la France, mais dans l'Europe, je ne saurais pas vous répondre.
En tout cas, le programme en tant que tel, c'est sûr que non, puisque le défenseur des droits, c'est l'institution de la République française. Après, d'autres programmes qui luttent contre les discriminations, c'est sûr que...
C'est pas un salaire, c'est une indemnité et on gagne 580€ par mois.
Le service civique, c'est toujours rémunéré 580€ par mois, peu importe le nombre d'heures qu'on fait.
Nous, on est à 28 heures par semaine, mais il y en a des services civiques qui sont que à 15 heures par semaine, par exemple.
Oui, en fait, le but, c'est qu'on est volontaire en service civique. On n'est pas salarié, on est vraiment volontaire en service civique. C'est aussi justement là que prend tout son sens l'engagement, en fait. C'est qu'on s'engage et qu'on n'est pas là pour des raisons financières. Vraiment pour la mission.
Nous, on fait que ça, parce que comme on disait, c'était à 28 heures par semaine, il n'y a que le lundi et le week-end où on ne travaille pas. Donc on ne peut pas faire d'études à côté, ce serait trop, trop gros. Mais il y en a qui le font, ouais, qui cumulent deux choses, parce qu'ils ont moins d'heures en service civique. Comme on peut avoir peut-être 10 heures par semaine en service civique et bosser à côté ou faire des études à côté, c'est possible, ouais.
Et puis nous, c'est notre mission que pour 9 mois, après, c'est terminé. Et le service civique, on a le droit d'en faire qu'un, on n'a pas le droit d'en faire plus.
Vous dites que vous gagnez 580€ par mois, mais du coup, comment vous faites pour vivre, enfin, la nourriture, le...
Déjà, 580€ par mois, c'est pas rien, c'est quand même quelque chose. Et on a des aides aussi de la CAF, on a les avantages étudiants sur le ciné et tout ça, et voilà, on se débrouille comme ça. Ouais. C'est pas énorme, mais c'est pas rien non plus, quoi. Donc, on y arrive.
C'est un peu comme si on était étudiante, en fait. Voilà.
Vous voulez faire quoi comme métier après ?
Bonne question.
La question de jackpot.
Moi, le métier, je ne saurais pas te dire, mais je sais que je vais faire un master d'anthropologie après.
Et moi, je veux travailler dans l'action internationale, dans les ONG. C'est un exemple. Ouais. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Merci. Merci. Thank you.